en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. À la fin de cette émission, nous reviendrons en détail sur les deux lauréats du prix Nobel de littérature annoncés à la mi-journée à Stockholm, l'Allemand Peter Handke et la Polonaise Olga Tokarczuk. Mais pour commencer, la musique. Certains l'ont surnommée la John Bass du monde arabe. Avec sa voix pure et envoûtante, cette ancienne étudiante en urbanisme n'a jamais cessé de construire des ponts musicaux entre le folk, le rock, le fado, le flamenco et le shaabi de son Algérois natal. Pour linguistique aussi, entre l'arabe, l'anglais et le français, elle nous revient avec un sixième album dont les mélodies et les mots résonnent avec les inquiétudes et les espoirs de l'actualité. Respect, démocratie, liberté, progrès, émancipation, éducation, amour. Les engagements de Souad Massi sont omniprésents dans ce sixième album, Oumnia, qui sort demain chez Believe Naïve, et vous m'en direz des nouvelles.
هديت لك عسل شربت لي مرار وانت ساقي وانا الشارب والمصافير اهلون ودار وانا اللي عطيت لك باش تدرب يا ربي حط عليا يدان خرجني من الليل والهيام اللي مظلوم يرتاح عنده
Bonjour Swan Massi.
Bonjour.
Oumnia, c'est la chanson qui donne son titre à l'album. C'est l'une de mes chansons préférées. Il y en a quelques autres, mais c'est l'une de mes chansons préférées. Et pourtant, c'est peut-être pour moi la chanson la plus étrange de cet album. Parce que Oumnia en arabe, ça veut dire mon souhait. Une chanson étrange puisqu'elle parle, quand on lit les paroles, qui sont en français dans le livret. Mm-hmm. C'est important d'ailleurs de s'y reporter parce que vous êtes une vraie songwriter.
Merci.
On comprend que c'est un texte sur la trahison, sur une incompréhension, avec des mots extrêmement violents. Alors pourquoi Oumnia et pas Rihanna? Pourquoi souhait et pas trahison?
Bravo pour Rihanna. Oumnia parce que je reste dans le positif. Le refrain, il y a une prière, il y a un souhait, c'est de trouver la paix intérieure. Et je pense que je me suis accrochée à cet espoir dans le refrain. Et je pense que c'est pour ça aussi que je voulais donner des sonorités radieuses, on va dire.
Oui, parce que c'est très étonnant, parce qu'on sent effectivement une mélancolie dans le texte, dans les paroles, parfois un peu dans la musique. Il y a un petit côté fado sur ce titre. On a aussi dans un titre comme Salah, par exemple. Mais la tonalité globale que l'on retient, c'est pas du tout celle-ci, quoi. C'est vraiment une chanson pleine d'allant.
C'est vrai, mais je vais vous avouer quelque chose. C'est avant d'écrire cette chanson, j'étais un petit peu malade. Je me sentais très très vulnérable. Et en même temps, j'écoutais une chanteuse que j'adore. C'est Zaria Evora, que j'aime beaucoup. Et à chaque fois, quand j'étais pas bien, en fait, je l'écoutais. Et je pense que je pensais aussi à elle, parce que je sais, je l'ai rencontrée déjà, j'ai eu la chance d'échanger avec elle. Et je veux dire, je pensais à elle en même temps que je composais cette chanson aussi. Et bien sûr, je parle de moi.
Est-ce que c'est une chanson de rupture? Vous dites « tu es mort dans mon cœur ». C'est, je le disais, c'est vraiment extrêmement violent. Je t'ai tendu la joue. Tu m'as giflé, je t'ai donné la main, tu m'as poignardé. Ce sont des mots extrêmement forts.
Ouais,
et qui
dur.
Contrastent effectivement avec cette tonalité musicale qu'on a entendue.
Oui, bien sûr, il y a une rupture. Il y a une rupture parce qu'il y a un constat, il y a une conclusion, et il faut passer à autre chose. Et je passe à autre chose, je tourne la page, je passe avec beaucoup d'espoir et beaucoup de choses positives dans la vie, parce que je ferme une porte et j'ouvre une autre porte.
Mais vous fermez la porte sur quoi?
Sur le passé, sur un certain passé.
Sur le vôtre ou bien sur...
Sur le mien.
le passé de votre pays, de l'Algérie. Parce que c'est un album très politique, poétique et politique.
Non, non, celle-là, c'est une chanson très personnelle. Je parle d'une histoire personnelle.
Alors, j'ai tant pleuré. C'est ce que vous chantez aussi dans cette chanson, Souad Massi. Et pour en venir justement à l'Algérie, vous avez quitté ce pays à l'âge de 26 ans. Vous avez vécu ce qu'on a appelé à l'époque les années noires, c'est-à-dire le temps des maquis islamistes, des coupeurs de route, avec en face là, de cette menace, le poids croissant de l'armée au sein de l'appareil d'État. Personnellement, puisqu'on en est justement à parler de ce que vous avez personnellement vécu, quel souvenir est-ce que vous gardez de ces années-là ? Qui sont à la fois très loin, mais très proches en même temps.
Ça, je vais vous étonner parce que c'est vrai qu'on a vécu des moments très très difficiles. Mais j'ai dans ma tête, j'ai gardé des beaux souvenirs d'enfance, d'adolescence, des senteurs, des sourires qu'on voit jusqu'à maintenant dans les marches pacifiques. C'est vrai qu'on a... moi, je n'ai pas gardé ces images d'horreur parce que j'avais besoin de continuer. J'avais besoin de rêver, de garder de l'espoir.
Vous avez fermé les yeux?
J'ai pas fermé les yeux, j'ai jamais fermé les yeux. Je fais pas un déni sur ce qui s'est passé, mais j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'être productive, j'ai besoin d'être actrice c'est-à-dire je veux pas rester inerte, je veux réagir et être au service et je veux porter une parole et c'est pour ça que j'essaie de transformer ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et donner quelque chose de concret.
Et vous vous mobilisez concrètement dans la bataille pour la démocratie en Algérie. La dernière fois que vous étiez venu nous voir, c'était le 8 mars dernier. Donc on était dans le début de la phase de mobilisation en Algérie pour demander la démission d'Abdelaziz Bouteflika qui était encore au pouvoir à ce moment-là. Et c'est à lui, sans doute, que l'on pense un peu en écoutant cette chanson Fibali.
شحال من قريب تبدل الوغاب بالعنوان راك فهمت لك تبت فيت الشمعة وغلقت الباب غرقت السفينة اللي كنت فيها الرئيس وشفت الموت تعنق فيا لعبت بيا كي العرايس وجميع موجات ترمي فيا واحد مغلوب من زمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة واحد مغلوب من زمان وفرحان معاه طيحة ونوضة وتلت مخبي ما يبان يخرج كي تنحط الميدة تلف لك الحساب حصيرة المفروشة راهي رشات والدار اللي ما فيها لاساس لا باب غير ريحة خفيف وراهي مشات لفت زيرة طريق معلوم وراهي بعد التسفينة وما راك قاري علم النجوم وعرس البحر فيك تستنى
وحتى مغلوب من زمان فرحان معاه طيحة ونوضة وتلت مخبي ما يبان يخرج كي تنحط
Fibali, nouvel extrait du nouvel album de Souad Massi qui sera demain dans les bacs. Et on le disait, c'est une adresse à l'ancien président Bouteflika, Souad Massi.
Oui, tout à fait. C'est en fait, j'ai présenté le refrain comme une charade. J'ai dit mon premier est démuni. Je parle de l'ancien président qui était quand même très affaibli par sa maladie. Je parle de second, le bienheureux. Bienheureux qui veut dire Saïd, ça veut dire l'heureux. qui le soutient comme il peut, qui le soutenait par le passé maintenant. Et le troisième qui va surgir, on ne sait pas quand, et quand il y aura le moment de se mettre à table pour se servir.
Quel regard est-ce que vous portez sur le personnage Bouteflika? Je ne parle pas de l'homme politique, mais je parle de l'homme tout court. Swann Massy, est-ce que c'est un pantin? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est une victime? Est-ce que c'est un otage? Quel est le mot qui convient le mieux?
Moi, je ne pense pas que c'est une victime. Je pense que le peuple algérien a été victime. C'est nous les victimes. Il ne faut pas changer les rôles. Je pense que nous aussi, on est les otages. L'Algérie, elle est otage. Ça fait 57 ans que l'Algérie est otage. Je ne veux pas parler de l'homme parce que je le connais que autant comme politique. Je sais que c'était le premier ministre des Affaires étrangères. Il avait 21 ans. Il était très jeune. Je sais que c'est quelqu'un de très cultivé, instruit. Mais pour moi, il a mené vraiment l'Algérie vers le chaos.
Donc il est responsable.
Bien sûr qu'il est responsable.
Tu les as laissés tirer les ficelles, hein, écrivez-vous, puisque donc, encore une fois, je me réfère à la traduction en français qui figure dans le livret. Toi qui as tellement menti au point de perdre le fil, tu les as laissés tirer les ficelles. C'est qui les?
Ben, je pense tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui le conseillent, ses alliés, avec qui il a des intérêts.
De qui les Algériens sont-ils les otages, puisque c'est le mot que vous avez employé à l'instant?
L'otage de ce gouvernement qui est toujours en place, qu'on rejette. On se sent toujours, on a l'impression qu'on vit dans une grande prison. On n'a pas les moyens de s'exprimer. Il y a beaucoup de répression. Vous avez bien vu qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, de kidnappings. Quand on a envie de donner notre avis, notre opinion, on nous met en prison.
Rien n'a changé depuis le départ du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika.
Rien n'a changé.
Il a quitté le pouvoir sous la pression de la rue, pression à laquelle vous avez vous-même participé en prenant la parole, en manifestant à Paris. Il y a eu un grand concert aussi le 3 avril au théâtre Le Palace sous la bannière « Un seul héros, le peuple ». La solution, c'est le peuple.
La solution ne peut venir que du peuple, et qui est la source du pouvoir, en fait. Et je pense que il y a une vraie crise au sein du gouvernement actuel. Et il faudrait qu'ils écoutent ce peuple et qu'ils nous laissent, qu'ils nous donnent notre place. On a envie de vivre dans une vraie démocratie, dans la dignité. On a envie de voir cette Algérie fleurir, évoluer, moderne.
Et vous croyez dans le processus électoral en cours? Vous allez voter aux élections en décembre? Vous allez prendre parti pour tel ou tel candidat?
Vous savez, il y a un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Bourga, qui est un ancien combattant, un homme qui a plus de 86 ans, qui se trouve aujourd'hui en prison. Est-ce que vous pensez que je peux faire confiance à un gouvernement qui met en prison un grand monsieur comme Monsieur Bourga, qui s'est battu pour libérer l'Algérie? C'est impossible, moi je ne peux pas leur faire confiance.
Donc vous ne voterez pas?
Bien sûr que je ne voterai pas. Mais je pense qu'il n'y aura pas de vote.
Vous êtes algérienne, Swann Massy, vous êtes aussi franco-algérienne. Mm-hmm. Et c'est une chanson sur l'exil, Meskelil, l'odeur du chèvrefeuille qui vous a valu en 2006 une victoire de la musique en France. Est-ce que le regard qu'aujourd'hui vous portez sur l'Algérie, c'est le regard d'une Algérienne, c'est le regard d'une franco-algérienne, c'est le regard d'une exilée?
Je ne me sens pas comme une exilée. J'aimerais pas mentir là-dessus. Je suis venue de mon propre gré en France suite à une invitation et je pouvais revenir quand je voulais en Algérie. Je porte un regard, je veux dire, d'Algérienne, de franco-algérienne aujourd'hui.
Mais depuis 62, depuis l'indépendance du pays, est-ce que vous avez l'impression que le pays a avancé?
On n'a pas avancé. On n'a pas avancé. Vous savez, j'ai la chance de voyager. J'ai visité des pays qui ont, par exemple, pétrole. J'ai vu comment ils ont évolué. On a évolué sur aucun sujet. on n'a pas de justice sociale, l'état des rues c'est une catastrophe, l'éducation, la santé, on a vraiment évolué sur aucun domaine.
Et pourtant vous gardez l'espoir.
Bien sûr, je garde l'espoir parce que je crois en ces personnes qui sortent tous les mardis, tous les vendredis et qui prennent beaucoup de risques. J'y trouve courageux et j'ai envie de les soutenir et je dois être forte pour ça.
Pour sentir l'odeur du pain, au sésame ou au cumin, fallait faire la queue longtemps dans ce pays. Toute la ville n'est que banlieue, on se débrouille comme on peut. Il pousse entre les pavés des fleurs meurtries. Et pourquoi le mot maison là-bas rime avec prison? Et les voisins, on sent les gardiens. Ici je lis mon journal où je veux, et c'est banal. Ici je n'ai plus peur au petit matin. Il n'y avait rien à regretter là-bas. Alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi. Un homme en noir à cheval, le froid de la cathédrale. Et devant les bras zéros dans l'avenue, l'aveugle au violon très fort dans les rues que des vélos, j'entendrai toujours ces bruits qui continuent. Des travaux jamais finis pour des enfants qui en rient, tous ces visages sans un nom dessus. Pour les voisins d'à côté, je ne suis pas une immigrée, car ils font comme s'ils m'avaient toujours connue. Il n'y avait rien à regretter là-bas. Alors je suis partie loin de chez moi. Ici je suis bien, je suis chez moi, chez toi. Pourtant j'ai des souvenirs qui restent en moi.
Pays natal, Swann Massy qui est avec nous dans VMDN sur RFI. Alors quand on entend ça sur le disque, on se dit mais c'est la chanson autobiographique peut-être par excellence, c'est une chanson qui parle de vous, Swann Massy. Et oui et non, en fait.
Bah, je me retrouve.
C'est pas vous qui l'avez écrit ce texte.
J'aurais voulu. Je me suis retrouvée beaucoup dans le texte de Françoise Malé-Joris, que j'ai eu la chance de lire ces textes.
Grande romancière française, La Longue Veille notamment.
Magnifique. Et j'étais très touchée. J'étais dans l'avion en fait, assise à côté de mon ingénieur de son qui s'appelle Yann. On s'est changé. Il m'a dit, voilà, je lui ai demandé ce qu'il faisait en ce moment. Il m'a dit, je travaille avec Marie-Paul Bell. Il m'a dit, il y a une chanson, soit je suis sûre qu'elle va te parler. Et en l'écoutant, j'avais les larmes aux yeux dans l'avion. Je dis, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ce texte, mais bon. J'ai la chance de le chanter.
Donc Marie-Paul Bell, c'est celle qui a composé la musique, de cette chanson, chanteuse, pianiste, compositrice, donc, et elle sera à vos côtés pour l'interpréter, ce pays natal, mardi prochain, 15 octobre, au Café de la Danse à Paris. Vos univers avec Marie-Paul Bell se rejoignent-ils?
Je l'ai rencontrée, j'ai rencontré cette grande dame, et je peux vous dire que je pense qu'on a un côté un peu... On a gardé nos âmes d'enfants, et c'est ce que j'aime. Et quand je l'ai rencontrée, j'avais l'impression que je la connaissais depuis longtemps.
Comment ça veut dire quoi pour vous, conserver une âme d'enfant? C'est quoi une âme d'enfant?
Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est ce qui me permet de croire encore dans l'humain et de rêver encore et de garder un peu de naïveté pour souhaiter la paix dans le monde, par exemple. Je pense qu'il faut en avoir un petit peu en soi.
Il y a deux chansons en français sur cet album. Il y a celle-ci et puis il y a Je chante, que vous a écrit l'écrivain Majid Cherfi, la tête de pont du groupe Zebda. C'était important pour vous de chanter aussi en français sur cet album, Swann Massy?
J'ai beaucoup de chance parce que je suis... mon audience, elle est cosmopolite. J'ai beaucoup de fans à moi qui ne maîtrisent pas l'arabe. Et à chaque fois, quand j'ai l'occasion de chanter en français, ben je le fais pour eux.
Et est-ce qu'on dit la même chose en français, en arabe ou en anglais quand on écrit? Est-ce qu'on dit la même chose? Est-ce qu'on exprime l'émotion de la même façon? Est-ce qu'on raconte les mêmes histoires?
Je pense que ça dépend comment on est comme artiste. Moi, je dis la même chose. C'est la même énergie, c'est la même information. Après, c'est la langue qui diffère.
Et quelle est la musicalité de l'arabe et la musicalité de la langue française? Elle est la même?
Pour moi, sur ce projet, pour moi, elle est la même. Par exemple, Pays Natal, je l'ai chanté. Je pense que si je l'avais chanté en arabe, je l'aurais chanté de la même façon.
Et vous allez en faire une version arabe
J'ai pas pensé à ça, peut-être.
Mais c'est pas exclu, il n'y a pas de raison de cantonner une chanson à une seule vie.
Non, peut-être j'essaierai de l'écrire en arabe. Je vais demander l'autorisation à Marie-Paul Bell et on verra, pourquoi pas.
Je chante pour ma terre qui n'a pas vu le jour et pour mes enfants qui ne la verront jamais, ou la connaîtront sur un cahier d'écolier. Alors je chante. Je chante pour tout l'or qui ne fait pas le poids. Moi, toute ma richesse respire sous mon toit, car on est riche que d'avoir donné la vie. Je chante, je chante l'air le plus joli. Je chante. S'appelle mélancolie. Je chante quand la nuit a des airs qui reviennent nous dire que demain ne tient pas ses promesses. On peut mourir deux fois pour l'amour d'un enfant. Alors je chante. Je chante pour les femmes qui n'ont pas de couronne et qui se battent pour qu'on ne couvre pas leur tête. Et les hommes diraient, la vie est une fête. Alors je chante. Alors je chante. Je chante, je chante, je chante l'air le plus joli. Je chante, je chante, je chante l'air qui s'appelle mélancolie.
Chanson donc écrite par Majid Cherfi pour vous, Swann Massy. Est-ce que dans la mélancolie il y a aussi pour vous une forme de bonheur? Le bonheur de chanter, le bonheur de pouvoir dire ce que l'on pense?
Dans certaines chansons, oui. Mais heureusement pas toutes les chansons, mais oui, mais j'arrive à trouver une certaine joie dans cette mélancolie, qui n'est pas forcément triste en fait.
Alors on l'a entendu, hein, vous chantez pour les femmes qui se battent pour qu'on ne couvre pas leur tête. Elles étaient nombreuses, hein, les femmes à manifester pour l'avenir de l'Algérie, à vos côtés, mais aussi bien d'ailleurs à Paris qu'à Alger ou ailleurs. Est-ce que les femmes algériennes sont pour vous en train de prendre toute leur place dans la société et dans l'engagement politique?
J'étais très, très heureuse de voir ces femmes, ces jeunes filles, ces mamans, ces étudiantes à se réapproprier l'espace public déjà. C'est, pour moi, c'était une grande première. J'étais très, très fière d'elle. Beaucoup d'activistes féminines, et une grande conscience politique et elles essayent avec tous les moyens de prendre cet espace. C'est pas évident.
C'est courageux pour une femme aujourd'hui de s'engager en Algérie?
Ben, c'est courageux aussi pour les hommes. C'est pour les deux. Je pense que ils prennent des risques en s'engageant.
Et vous, Swann Massy, pourquoi est-ce que vous êtes engagée? Parce que c'est pas nouveau, ça. Vous êtes toujours engagée. C'est une évidence?
Mais je ne sais pas sur quoi je peux écrire. Si je dénonce pas l'oppression, si je chante pas sur justement les femmes qui ne peuvent pas s'exprimer, qu'on oblige à par exemple porter le voile, ou les petites filles qui ne peuvent pas aller à l'école, je pense qu'il faut que j'arrête ce métier.
Mais justement, vous êtes inscrite dans le sillon du Shaabi, donc de ce folk algérien, et l'engagement, il est constitutif aussi de ce courant musical-là.
Oui, puis c'est vrai que le Shaabi, qui est le chant populaire, c'est des poèmes, il y a une tradition, il y a des narrateurs, il y a du contenu. On peut pas chanter n'importe quoi quand on fait le Shaabi, c'est sûr.
Mais pourquoi vous êtes engagé dans cette voie-là? Parce que si on revient sur votre parcours musical, il est quand même extrêmement varié. Vous avez appris, vous me dites si je me trompe, vous avez appris la guitare, vous avez appris le répertoire arabo-andalou, la musique classique occidentale à l'association de l'école des Beaux-Arts. Vous avez tâté du flamenco aussi avec le groupe Triana d'Alger, qui est originaire de Séville, c'est ça, en Espagne?
De leur oncle, oui.
Voilà, et puis il y a eu du heavy metal aussi avec Atacor. Bon, c'était pas évident quand même que la musique folk s'impose. Comment est-ce que vous avez choisi ce sillon-là?
Alors le folk, c'est simple, c'est que à ce moment-là, quand j'étais ado, j'ai vécu en Kabylie. Et je faisais les allers-retours pour continuer mes études à Alger. J'avais le temps d'écouter la musique et j'écoutais beaucoup la country et le folk, et qui correspondaient beaucoup aux images qui m'accompagnaient. La nature, la campagne, la terre. Et c'est là où j'ai beaucoup écouté le folk music.
Mais le folk américain, John Baez par exemple, puisqu'on vous compare souvent à John Baez.
Oui, John Baez un petit peu, mais c'était surtout Kenny Rogers par exemple, Patti Smith, c'était ça que j'écoutais le plus.
Et à Paris en 99, vous chantez au Cabaret Sauvage, c'est là que vous vous faites repérer. Alors là aussi, ça peut être étonnant, parce qu'on est en 99, donc à la fin des années 90, début des années 2000, c'est vraiment une époque charnière, et c'est la grande période en France du Rai, des Faudel, Khaled et autres, Rachida. Là aussi, on se dit, mais pourquoi vous avez bifurqué, quoi? Parce que la route était étroite quand même entre le Rai et la pop musique à cette époque-là.
Je n'ai jamais écouté le Rai. Dans ma famille, on l'a jamais écouté. En revanche, on écoutait le Rai traditionnel, qui est super beau. On trouve vraiment de la belle poésie avec des instruments très traditionnels. Et à cette époque-là aussi, quand je faisais du folk, je veux dire que il y avait beaucoup de jeunes et de groupes qui faisaient du heavy metal, du rap, du reggae, mais on n'avait pas la chance de nous produire. Et quand on m'a invitée, d'ailleurs, j'étais étonnée et contente en même temps. Et voilà, moi je faisais pas ça pour devenir chanteuse, je faisais ça pour m'accompagner, pour accompagner mes amis, et c'était un refuge pour moi, la musique.
Alors la tradition, justement, les instruments de musique traditionnels, la musique traditionnelle, est-ce qu'il faut s'appuyer dessus pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser? Parce que vous n'êtes pas une chanteuse nostalgique.
Les instruments traditionnels?
Oui. Le folk, c'est la tradition, mais en même temps, vos chansons sont très ancrées dans la réalité, et même peut-être dans l'avenir.
C'est contemporain. Oui, mais on a besoin quand même d'avoir des sources. On a besoin d'avoir une bonne base. Et moi, j'aime cette tradition de raconter des histoires du vécu, de les partager, parce que les gens se retrouvent dans ce vécu.
Alors justement, comment les histoires vous viennent-elles sous votre plume? C'est dans votre vie de tous les jours? Ce sont des rencontres? Ce sont des lectures? Comment une chanson naît-elle?
Ça dépend d'une chanson à une autre. En fait, il n'y a pas de règles, mais je vais vous donner juste un exemple. Par exemple, dans Les Talbir, une chanson que j'ai écrite, c'était suite, j'avais lu un proverbe. Et je suis partie de ce proverbe qui m'avait marqué. J'étais étonnée de l'avoir découvert. Et je suis partie de là. J'ai imaginé toute une histoire avec ce proverbe. Après, il y a d'autres, comme Fibali, par exemple. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe.
C'est l'actualité.
C'est l'actualité. Je ne pouvais pas échapper à ce sujet. Après, je veux apprendre, par exemple, où je parle de plusieurs petites filles qu'on empêche d'aller à l'école. Ça, c'était suite à un reportage que j'avais regardé tard la nuit. Il y avait, en fait, il dressait un tableau de plusieurs petites filles, parcours de petites filles qui ont des galères pour aller à l'école, et ça m'avait tellement marqué que je crois que le lendemain matin, j'avais commencé à écrire la chanson.
هي اللي كانت تحلم بولد تتخيل عليها نسات زغرت خايفة لبابا يطلقها ولا يتزوج عليها وياك وصاها وكيما كان الحال عامين من بعد بابا ورد ومات خدمت علينا يما وش قال يجي عايرها كي تهجلت ويعسوا فيها إذا خرجت كنت صغيرة بصاح فهمت باللي ماشي مليح كي جيت بنت لو كان خير مات نهار اللي زدت فيه وراني حبة نقرا ونتعلم نفتح كتاب نحلم ونرسم راني حابة نعيش وراني حابة نرفع راسي ونقول لا وندافع الحق كيما عندي الله حبوا يدفنوني وانا حية يخبوني تقوشي وشده يحرموني مهاد الدنيا حكموا عليا تقول شي قتلت شوف الدراري صغار بتخبية فرحانين يروحوا القراية أو راح عليهم الحال وانا راح عليا من بكري صغيرة ومحبوسة وما نخرج نطيب ونعاند الكبار يوجدوا فيا باش نتزوج وانا مكاني مع دراري صغار ما رانيش نحس روحي انسان كي سلعة يوزنوا فيا بالميزان اللي يجي فيا يساوم وانا نعرف واش نسوى.
Je veux apprendre Swad Massi dans VMDN sur RFI, nouvel extrait de son album Oumnia chez Naïve Believer. Je veux apprendre un titre français pour une chanson en arabe. Expliquez-nous, Swad Massi, c'est très étonnant.
De toute façon, tout le texte est traduit en français, mais comme en arabe, je voulais mettre Anihab Angra, c'était un peu long, j'ai préféré le nommer Je veux apprendre.
Avec là encore des mots très très forts, hein. Je veux lire et apprendre, ouvrir un livre, rêver et peindre, je veux vivre. Être une fille était maudit, il voulait m'enterrer vivante. Ça veut dire qu'on a sciemment voulu enfermer les jeunes filles dans une forme d'obscurantisme. On a voulu les éteindre.
Bien sûr, dans le passé, avant l'islam, vous le savez que les petites filles, elles étaient enterrées vivantes parce qu'elles pouvaient apporter la honte à la famille. Ceci dit, aujourd'hui, en Inde, dans certains villages, il y a des femmes, c'est leur métier de tuer ces petites filles. C'est horrible, c'est encore d'actualité. Et c'est les histoires de plusieurs petites filles une Africaine qui ne peut pas aller à l'école parce qu'elle a peur d'être violée sur la route. Ça arrive souvent. Une petite fille du Yémen qu'on a mariée de force en avant. Et d'autres histoires de filles, des orphelines et qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école.
Alors l'école, justement, l'éducation, l'instruction, on sait combien c'est une
important.
Question qui vous tient à cœur. Vous êtes la marraine du Fonds pour les femmes en Méditerranée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Quelles sont les principales actions qui sont menées?
En fait, c'est une association qui aide et qui forme d'autres associations en Méditerranée pour leur permettre de travailler sur le terrain et d'émanciper d'autres femmes et les aider à monter elles-mêmes des associations, bien sûr en les accompagnant.
Et donc,
et pour aider les femmes et les enfants, pour les aider concrètement à faire des formations, à aller étudier, à dénoncer par exemple le harcèlement sexuel ou certaines pratiques.
Alors il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger en ce moment autour de la Méditerranée. Est-ce que vous pensez justement à propos de ces jeunes filles, à propos de ces femmes, que les choses vont dans le bon sens? Est-ce que les choses progressent? Est-ce que les mobilisations politiques servent réellement quelque chose?
Vous parlez en Méditerranée en général?
En général, oui, mais c'est parce que c'est vrai qu'on parle... Non, mais justement, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que nous, ici, à Paris, on a toujours l'impression qu'on parle toujours des pays du sud de la Méditerranée,
mais
les pays du nord ne sont pas forcément des modèles absolus non plus.
Parce que cette association, elle intervient aussi en France, en Espagne, en Italie notamment, en France aussi. Vous savez qu'il y a des femmes qui meurent des violences domestiques plus que le cancer, par exemple.
Bien sûr.
C'est horrible.
Ouais, et il se trouve que les autorités françaises ont mis ça en tête de leur agenda.
Je ne sais pas ce que a fait le gouvernement français pour ça, mais le combat continue. Il y a plusieurs associations féminines qui se battent et pour essayer d'appliquer la loi, en fait, pour protéger les femmes.
Est-ce que c'est à l'État d'intervenir justement sur cette thématique-là, ou est-ce que d'abord finalement c'est pas une question d'éducation, précisément une
je
question
pense
de famille?
Les deux. Je pense que les deux. Je pense que c'est important aussi d'éduquer. L'éducation a un rôle important, mais je pense qu'une république a le devoir et la responsabilité de faire des lois et de les faire appliquer, tout simplement.
Tout simplement, sans aller au-delà.
Je ne sais pas comment c'est la base, bien sûr.
Alors l'éducation, précisément, ça passe aussi par la lecture. Quels sont les livres, Swann Massie, qui ont forgé votre culture et votre personnalité? Parce qu'on parlait de musique tout à l'heure, mais il y a aussi les mots, qui sont aussi votre matériau, en même temps que les notes de musique. De quels mots vous êtes-vous nourri?
Alors quand j'étais jeune, je lisais beaucoup. Parce que je partais pas en vacances, on n'avait pas les moyens d'aller en vacances, et j'avais mon frère qui allait au Centre culturel français à Alger et qui me ramenait des livres, et je lisais tout ce qui me tombait dans les mains. En fait, ce que j'adorais le plus, c'était j'adorais la psychologie, la philosophie et les poèmes. Et je lisais un peu tout, et en français et en arabe.
Et notamment les poèmes de Lounis Saïd Benguelet.
C'est un grand chanteur kabyle, j'adore sa plume, bien sûr.
Alors, on va évoquer d'ici quelques minutes sur RFI le prix Nobel de littérature. Il se trouve qu'il y a quelques années, un grand songwriter, Bob Dylan, a reçu ce prix Nobel de littérature. Je ne vais pas vous demander si vous envisagez vous aussi de le recevoir un jour, parce que vous êtes trop modeste pour pouvoir le signaler. Mais tout de même, est-ce que vous pensez que la littérature et la chanson sont deux arts qui vont ensemble? Le prix Nobel de littérature donné à quelqu'un comme Bob Dylan, donné à un songwriter comme vous, ça a du sens, Swann Massie?
Leonard Cohen ne l'a pas eu?
Je ne crois pas.
D'accord.
Mais peut-être aurait-il mérité.
Je pense qu'il le mérite, parce que moi j'ai étudié, j'ai lu beaucoup les textes de Leonard Cohen, et je pense que c'est important aussi de donner aux artistes un tel prix prestigieux, parce que surtout ceux qui ont des beaux textes, qui ont des messages à faire passer, surtout si c'est des artistes engagés, bien sûr, je pense qu'il le mérite.
شافونا عقلين ظلمونا بين كل شي في وقت الضيق علمنا ويمشوا سبقونا قطعنا في الطريق احنا اللي رفدناهم في السماء ولاقيناهم في ورد معطر حسدونا حتى في كسمة والله يستر والله يستر
Un dernier extrait de l'album Oumdia de Swan Massy, un album que 5 d'entre vous vont pouvoir gagner d'ores et déjà en répondant par message privé, je dis bien par message privé uniquement, à partir de la page Facebook de l'émission Vous m'en direz des nouvelles. Donc la question est la suivante: quelle chanteuse et pianiste française a écrit la musique, je dis bien la musique, de la chanson Pays Natal qu'on a entendue tout à l'heure? On en a longuement parlé. Merci beaucoup Swan Massy d'avoir
c'est
été
moi qui vous remercie.
Des nôtres aujourd'hui. Vous serez en concert, je le rappelle, lundi 14 et mardi 15 octobre au Café de la Danse à Paris, le 18 à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, toujours en région parisienne, le 19 à Vannes dans le Morbihan, le 29 novembre au Garric dans le Tarn-et-Garonne, dans l'ouest de la France, et puis à Londres également, hein, au Café, au Jazz Café plus exactement, les 19 et 20 novembre, et puis la tournée continue en 2020. Merci beaucoup.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et comme promis, on va donc revenir avec vous, Amélie Beaucourt, sur le prix Nobel de littérature qui a été remis en début d'après-midi. Bonjour Amélie.
Bonjour Jean-François.
Un prix qui est décerné au dramaturge autrichien Peter Handke.
Oui, Peter Handke, c'est une sorte de monument autrichien de la littérature. Il a plus de 80 œuvres au compteur, romans et pièces de théâtre confondus. Il s'est même illustré au cinéma sur l'un des scénarios de Wim Wenders.
Un auteur qui est sujet à controverse, hein, notamment Amélie, pour ses prises de position pro-serbes.
Oui, c'est à la suite d'un de ses livres emblématiques qui s'appelle Voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina que naît la polémique. Un texte qu'il a écrit en 1995, quelques mois du massacre de Srebrenica. Mais au-delà de la polémique, c'est pour l'ensemble de son œuvre et de son engagement qu'il a été récompensé. Il a d'ailleurs reçu en 1999 le prestigieux prix Büchner. Mais pour son traducteur Pierre Deus, c'est surtout un homme qui écrit en pensant aux autres.
Il est très généreux, c'est quelqu'un de très généreux. Il a le désir d'atteindre, pas de toucher, d'atteindre les gens. Et il a un mot pour tous ces gens, il appelle ça les inatteignables. C'est ceux qui ne sont touchés par... Il dit lui-même, si les sphères célestes retombaient sur la Terre, il ne les entendrait pas. C'est des gens qui sont un peu en marge. Et lui, il aimerait pouvoir les toucher. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie avec les gens, beaucoup d'humanité.
Le traducteur Pierre Deus à votre micro, Amélie. Alors au niveau du style maintenant, la plume de Peter Handke est assez particulière.
Ouais, dans son discours, l'Académie a salué la linguistique ingénieuse de son œuvre et c'est vrai qu'il a un style assez reconnaissable. Son traducteur français souligne d'ailleurs qu'il n'a rien à voir avec celui des autres écrivains avec qui il a l'habitude de travailler.
C'est quelque chose qui ne coule pas de source, qui est fait de rebondissements, de croisements. Et en même temps, il y a un rythme qui est inhérent à tout ce qu'il a, à ces phrases qui sont souvent, qui apparaissent souvent compliquées, qui sont souvent compliquées, qui posent des problèmes à la traduction, qui posent des problèmes aux Français, la façon dont il doit accueillir cette plume. Je peux que dire que c'est un vrai laboratoire de l'écriture.
Un laboratoire d'écriture qu'il est parfois difficile d'appréhender, même pour son traducteur. Il planche actuellement sur son dernier roman paru en 2017 en Autriche et qui lui donne du fil à retordre. Il s'agit d'un voyage dans le Vexin, une région du nord-ouest de la France, dans laquelle il a une maison d'ailleurs, parce que Peter Hanke vit en France, près de Paris.
Ouais, il a un pavillon à Chaville, dans le département des Hauts-de-Seine, pas très loin d'ailleurs des studios de RFI et de France Média Monde. Alors il y a un autre prix Nobel également qui a été remis aujourd'hui, toujours prix Nobel de littérature, et cette fois, celle qui est récompensée est une autrice polonaise, Olga Tokarczuk.
Oui, il s'agit en fait du prix Nobel 2018 qui aurait dû être remis l'année dernière, mais qui a été annulé à la suite d'un conflit au sein de l'Académie suédoise. Vous l'avez donc dit, il s'agit d'une Polonaise, elle a 57 ans, elle s'appelle Olga Tokarczuk, et elle s'est illustrée à la fois en poésie, en fiction, en alternant à la fois les formats longs, les formats plus courts, et elle a même écrit un livre pour enfants. Parmi ses grandes œuvres, on retrouve la saga historique Dieu, le temps, les hommes et les anges, paru en 1996, ou encore les livres de Jacob, un roman de 900 pages, très récompensé d'ailleurs, paru en 2014.
Et son style, eh bien, l'Académie suédoise a voulu le saluer, je cite, pour son esprit et sa malice.
Oui, tout à fait. Pour Margot Carlier, qui est sa traductrice française, l'écriture d'Olga Tokarczuk est à la fois sérieuse, philosophe, mais toujours avec un trait d'humour, ce qui en fait une autrice très agréable à lire.
Je trouve qu'il y a une sorte de légèreté dans l'écriture pour raconter des choses, des sujets assez graves. C'est très universel, finalement, ce qu'elle écrit. Ça concerne tout le monde. C'est très réfléchi, un peu comme Kundera quand il parlait légèreté de lettres.
L'année dernière, elle reçoit le Man Booker Prize, une grande distinction littéraire internationale, pour son livre Les Pérégrins, un roman qui concentre justement l'un de ses thèmes de prédilection, les migrations, sous toutes ses formes d'ailleurs. C'est comme ça que sa traductrice résume l'univers d'Olga Tokarczuk.
Je pense que c'est surtout les différences de culture, les déplacements, le monde en mouvement, enfin, l'être humain en mouvement, mais le monde en mouvement. D'ailleurs, j'ai parlé avec elle à propos du livre Les Pérégrins, et elle a dit que si, parce que c'est un livre qui date d'il y a 10 ans, à peu près un petit peu plus, elle a dit que si elle écrivait aujourd'hui ce livre, et il y aurait les migrants, par exemple, à l'époque on n'en parlait pas, mais il y a toujours, c'est les gens en déplacement, les gens, enfin, le monde qui bouge.
Donc c'est finalement cette capacité à jongler avec les styles, à être un vrai caméléon, qui a valu à Olga Tokarczuk la récompense ultime de la littérature.
Merci beaucoup Amélie Beaucourt. Dans un instant, le point complet de l'actualité internationale sur RFI. On se retrouve demain avec le metteur en scène italien Pippo Del Bono pour son spectacle La Gioia, qui se traduit par la joie dans la langue de Dante. Un spectacle à voir actuellement à Paris au Théâtre du Rond-Point. C'est jusqu'au 20 octobre et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.